C'est le dernier, juste avant, vous aurez Zacharie. On va lire au chapitre 3, et ensuite notre frère vous conduira dans quelques chants pour prier, mais on va prendre le temps de méditer ce chapitre. Chapitre 3 de Zacharie, verset 1er. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout, devant l'ange de l'Éternel et Satan, qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ? Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. » L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons, donc toute la classe des sacrificateurs qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe, car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Amen. Amen. Alors, pour bien comprendre ce chapitre, il faut connaître un petit peu l'histoire d'Israël. Et de quoi il s'agit, en quelle époque ce prophète Zacharie est intervenu. Alors c'est à l'époque des premiers retours des exilés. Vous savez qu'Israël avait été dispersé, Jérusalem avait été détruite, et Jérémie avait prophétisé que cela durerait 70 années, au terme desquelles le peuple reviendrait. Cette prophétie s'est accomplie au temps de Josué et de Zorobabel. Ce sont les premiers retours. Il y a eu plusieurs retours des exilés. Hein, il y a Esdras, Néhémie. Alors, on va attendre que le klaxon italien s'arrête quand même. Ah voilà. Mettez en silencieux si vous avez d'autres klaxons italiens ou autres, parce que c'est vrai que ça ne correspond pas trop. Donc je reprends. Bienvenue Carole. Je reprends. Ce passage a été écrit à l'occasion du retour des premiers exilés depuis Babylone, où ils avaient été chassés. Et il est question de reconstruire le temple de Jérusalem, sous la conduite de 2 personnages, Josué, le souverain sacrificateur, et Zorobabel, le gouverneur. Hein ? C'est un petit peu, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de roi, car même si Israël, une partie et une minorité, revenaient de l'exil, ils étaient toujours, en fait, assujettis aux païens, et il ne pouvait plus y avoir de roi. Donc l'autorité politique était un gouverneur, et non pas un roi, c'était Zorobabel. Donc l'autorité sacerdotale, c'était Josué, souverain sacrificateur, et l'autorité politique, c'était Zorobabel, le gouverneur de Juda. Et ces 2 hommes qui ont été réveillés pour revenir de Babylone ont été soutenus par 2 prophètes, Agé et Zacharie. qui les ont aidés dans cette œuvre, symbole pour nous de la nécessité du ministère du Saint-Esprit lorsque l'on veut œuvrer et surtout reconstruire quelque chose à la gloire de Dieu. Et donc l'un de ces deux prophètes, Zacharie, ici, Dieu lui montre une vision curieuse, celle d'un accusé, et pas n'importe lequel. Le souverain sacrificateur lui-même se retrouve dans un tribunal, le tribunal de Dieu même, accusé. Et à sa droite se trouve le procureur, l'accusateur, Satan. Dieu est le juge. Et le prophète en vision voit cela. Il voit que la tête même des sacrificateurs dans cette œuvre de reconstruction est menacée. Oui, Josué est menacé. Dans ce passage, il faut nous rappeler que Satan accuse. Satan, ça veut dire quoi en hébreu ? Adversaire. Et même, je me suis un peu penché sur le terme, adversaire, celui qui résiste, qui supporte. Et c'est vrai que quand on y réfléchit bien, Satan est fort. Il résiste et il supporte. Malgré la victoire de la croix, malgré bien des défaites qu'il a pu connaître, s'il en est un qui persévère, c'est bien notre adversaire. Et nous avons bien besoin, nous aussi, d'être forts. En tout cas, lui, l'adversaire, sans la grâce de Dieu, il est plus fort que nous. Et il est redoutable. Et la première de ses armes, c'est l'accusation. L'accusation. Il accuse. Alors, déjà, on peut se dire, attention à nos propos. Amen. Ne soyons pas du camp de l'accusateur, de celui qui fait du mal avec ses paroles. Et on voit une chose étonnante, le souverain sacrificateur en vêtements sales. Pourquoi c'est une chose étonnante ? Parce qu'il avait un costume sacerdotal extraordinaire. Quand on connaît la loi, on sait qu'il avait l'éphod, le pectoral, des pierres précieuses. Il avait un turban de sainteté. Le costume cérémoniel du souverain sacrificateur était magnifique. Et là, c'est tout le contraire. Il est tout sale, accusé, avec à sa droite le procurateur, l'accusateur, dans cette cour de justice. Et Josué, dans ce passage-là, c'est le silence, il ne dit rien. Je pense qu'on ressemble à Josué parfois, vous ne trouvez pas ? On se sent sale. Et parfois l'accusation fait des ravages terribles. Et on ne dit plus grand-chose. On n'a plus grand-chose à dire. Comme Josué, alors qu'il était souverain sacrificateur, mais comment pouvait-il réussir son travail s'il était en cet état-là ? C'est impossible. C'est pour ça que Dieu montre au prophète cette vision pour permettre à Josué de se tirer d'affaire. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que l'on vive dans une telle situation. Ce n'est pas le plan de Dieu. On n'aura aucune force pour le servir si on est sale et accusé et qu'on n'a plus rien à dire parce que l'on plie le genou devant l'adversaire. Alors, dans ce passage, l'ange de l'Éternel est le défenseur. Josué est l'accusé, c'est vrai. Le diable est le procureur ou l'accusateur, mais l'ange de l'Éternel est le défenseur. Alléluia. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Dieu soit béni. Nous ne devons pas l'oublier. Et heureusement que le défenseur est là. Et ce qui est curieux dans ce passage, c'est que c'est Dieu qui parle à Dieu. Alors, vous voulez voir avec moi, hein, il est dit au verset 2, l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime Satan. Alors, l'Éternel dit que l'Éternel. Donc, Dieu parle à Dieu. Et c'est la seule solution, parce que comment convaincre le juge si on est dans une position qui n'est pas une position d'égalité? Pourquoi la défense de Jésus-Christ a-t-elle cette force? Parce que Jésus-Christ n'est pas qu'un homme. Il est Dieu qui dit à Dieu de faire grâce. Alléluia. C'est Dieu qui parle à Dieu. Nous croyons que Jésus-Christ, c'est Dieu qui parle à Dieu. Et même quand Jésus-Christ, Dieu c'est Emmanuel. Dieu avec nous. Alléluia. Et Paul dit, et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? Tout est dans la parole déjà avant. Amen. Bien longtemps avant, des siècles avant, en vision, Zacharie voyait quelque chose qui ressemblait beaucoup à l'évangile. Je crois que c'est en Jésus-Christ que cette prière a été accomplie, que l'Éternel te réprime. Une autre traduction dit que l'Éternel te réduise au silence. Nous croyons que notre adversaire a été réduit au silence par Jésus-Christ. Amen. Et qu'il ne peut plus nous accuser. Il a été jeté sur la terre, l'accusateur des frères. Et la première des choses qui arrive, une fois que, il faut le dire, Josué est justifié, c'est qu'il est revêtu d'un turban pur. C'est la première chose. Et vous savez ce que c'est? Ce turban pur du souverain sacrificateur dans ce costume avait une lame d'or sur laquelle était inscrit « Sainteté à l'Éternel ». Ça veut dire quoi ça? Qu'on lui donne un turban pur, c'est qu'il est sanctifié. Alléluia. Il est sanctifié. Nous sommes sanctifiés par l'offrande de Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire que le turban, c'est ce qui enveloppe la tête, c'est ce qui concerne nos pensées. Il faudrait que dans nos pensées, au lieu d'entendre l'accusation du diable, nous entendions l'affirmation de Jésus-Christ, un turban pur. Je t'ai sanctifié par mon sang. Alléluia. Ça ressemble au casque du salut. Ce turban pur, sainteté à l'Éternel, ressemble dans Éphésiens 6 à ce casque du salut qui est dans la panoplie du chrétien. Pourquoi un casque dans le combat? Parce que la tête, c'est le plus important, si elle est découverte, alors c'est facile de vous abattre. Et quand un chrétien ne va pas bien dans sa tête, c'est très facile de l'abattre. Il faut que dans nos pensées, et dans notre conscience surtout, nous soyons sanctifiés. Amen. Nous croyons en la sanctification de l'offrande de Jésus-Christ sur la croix. Si nous sommes justifiés par la foi, alors nos pensées sont pour le Seigneur. Parce que sanctifier, ça veut dire aussi, comme dit une autre traduction, consacré à l'Éternel. Alléluia. Notre tête, nos pensées, notre intelligence sont pour le Seigneur. Il n'y a pas que cela, c'est ensuite écrit que d'autres vêtements lui sont donnés au verset 5. Je crois que l'on est rhabillé en Jésus-Christ. Amen. Ça commence de la tête, mais ça va jusqu'aux pieds. C'est écrit, revêtez-vous du Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, le salut n'annule pas l'obéissance. Au contraire, au verset 7, il l'encourage, puisqu'après il lui dit, une fois qu'il est justifié, sanctifié, rhabillé, alors l'Éternel dit, si tu marches dans mes voies, si tu observes mes ordres, alors je te donnerai libre accès parmi ceux-ci. Et je crois que le salut nous pousse à obéir par reconnaissance. Amen. Et c'est pas l'inverse, hein. Il faut pas obéir à tout pour être sauvé, parce que quand est-ce que vous pourrez être sûr et certain d'avoir suffisamment obéi pour être sauvé? Vous ne pourrez jamais le savoir. Donc, on n'obéit pas pour être sauvé, mais on obéit parce que l'on est sauvé. Alléluia. Avec l'œuvre que le Seigneur a fait dans nos vies, notre réponse ne peut être que la soumission de nos cœurs. Alléluia. On était sales, on était accusés, mais il nous a défendus. Une petite application concrète pour nous dans le domaine de la communion fraternelle. Écoutez, défendons les frères et les sœurs. Amen. C'est il y a quelques années où j'ai vraiment réalisé que Jésus-Christ nous défendait. Il est notre défenseur, notre avocat. Et que c'est donc, si je suis en communion avec Jésus-Christ, cette même attitude que je dois avoir pour tous les chrétiens. Parce que le Christ défend tous les chrétiens. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il est toujours d'accord avec nous, mais face à l'ennemi, il nous défendra toujours. Et ensuite, il nous dira de ce qu'il a à nous dire. Il nous purifiera des fois par l'épreuve. Il nous punira pour nous améliorer. Je n'en dis ce qu'on vient pas, mais il sera toujours notre défenseur. Amen. Et je crois qu'il ne faut pas être trop exigeant avec les bien-aimés, même si vous voyez parfois des chrétiens qui ont des difficultés, des faiblesses. Eh bien, je crois qu'il faut faire attention de ne pas aller trop loin, de les accuser, de les condamner, mais plutôt de les défendre et de les aimer suffisamment pour, après les avoir défendus, peut-être leur dire quelques vérités salutaires dont ils ont peut-être besoin d'entendre. Mais ce n'est pas parce qu'on défend quelqu'un que, pour autant, on va fermer les yeux sur ce qu'il ne faut pas fermer, mais le salut, c'est quand même avant tout d'être défendu par la médiation de Jésus-Christ. Alors, les versets 8 à 10, bien, c'est une préfiguration. Quand il est dit que Josué et ses acolytes, la classe sacerdotale, vont servir de signe, ça veut dire qu'ils sont une préfiguration. Ils annoncent quelque chose. Il y a une dimension prophétique à cette expérience de Josué. Laquelle ? Eh bien, Josué et ses compagnons nous parlent de Jésus et des chrétiens. Tout simplement. Notre souverain sacrificateur à nous, c'est le Seigneur. Et les sacrificateurs de la Nouvelle Alliance, c'est nous. Josué, qui devait reconstruire un nouveau temple, c'est Jésus-Christ qui reconstruit en 3 jours un nouveau temple, l'Église. Alléluia. Et il l'a construit avec nous, sa classe sacerdotale. Donc Josué et ses compagnons nous parlent de nous et de notre époque. Et qu'est-ce que met Dieu devant Josué au verset 9 ? Une pierre qui a 7 yeux. C'est curieux ça, c'est un langage prophétique. Une pierre qui a 7 yeux. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que vous vous rappelez de quelque chose ? Hein ? L'Apocalypse, très bien. Chapitre 5, verset 6. Il est question d'un agneau qui a 7 yeux. Eh oui, 7 cornes et 7 yeux. Cet agneau, c'est l'agneau de Dieu. C'est notre Seigneur. Et ces 7 yeux, nous dit l'Apocalypse au chapitre 5, verset 6, sont les 7 esprits de Dieu. Cette pierre devant Josué, c'est aussi pour lui montrer que la véritable pierre de fondation du nouveau temple, ce sera l'agneau aux 7 yeux. C'est-à-dire l'agneau qui a l'esprit avec plénitude. Les 7 yeux sont les 7 esprits de Dieu. Et Jean-Baptiste a dit, celui sur qui tu verras l'esprit se poser, c'est lui qui baptisera du Saint-Esprit. C'est lui qui a l'esprit avec plénitude. Amen. Oui. Dans ce nouveau temple qu'est l'Église, le rocher aux 7 yeux, c'est l'agneau qui a sacrifié sa vie pour nous et qui n'avait pas l'esprit avec mesure. Alléluia. C'était une préfiguration, et au verset 10, il est dit « L'iniquité du pays sera enlevée en une seule journée ». Alors là aussi, ça nous rappelle cette fameuse journée du Yom Kippour, le grand jour des expiations. En une journée, le souverain sacrificateur devait traverser le voile et purifier les lieux très saints. Mais l'Écriture nous dit qu'une journée ne suffisait pas, parce qu'il fallait que chaque année, cette journée se répète. En fait, personne n'a été capable en un jour d'accomplir ce que cette fête pourtant annoncée. Le seul qui a pu le faire une fois pour toutes, c'est notre Seigneur. En un jour, il a enlevé l'iniquité du monde entier. Alléluia. Ce jour où, après sa mort et sa résurrection, il est entré dans le lieu très saint et il a présenté son propre sang. C'est là l'accomplissement de ce jour des expiations. C'est enfin cette fête qui se réalise où il y avait cette promesse qu'un jour, et en un jour seulement, tout serait sanctifié par un sang beaucoup plus précieux que celui des animaux. Son nom soit béni. Oui. Et enfin, le texte se termine au verset 10 encore par la réconciliation fraternelle. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Amen. C'est une belle conclusion de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est la réconciliation entre nous. C'est s'inviter les uns les autres. C'est vivre dans la paix les uns avec les autres. Amen. Le Seigneur a donné sa vie pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu et réconciliés les uns avec les autres et vivre en paix. Amen. Quel beau passage que ce passage-là, qui en vision, déjà par l'intermédiaire de Josué et de ses sacrificateurs qui n'étaient que des présages, nous montre la perfection de notre justification. Notre adversaire va toujours nous accuser, mais Dieu, en Jésus-Christ, nous défendra toujours. Alléluia. Et ce que nous avons besoin de réaliser, c'est que quelque part, aujourd'hui, la seule personne auprès de qui l'accusateur peut vraiment faire ce travail d'accusation, c'est nous. Mais ce n'est pas Dieu. Il ne peut plus nous accuser auprès de Dieu. Parce qu'il a fait l'expiation de nos iniquités en une journée. Amen. Le fondement de notre salut est sur celui qui avait l'esprit sans mesure. C'est dommage que nous encore aujourd'hui, parfois, on écoute l'adversaire plutôt que le Sauveur. Et vivre dans la foi, c'est plutôt nous appuyer sur le Seigneur que peut-être sur ce que l'on peut ressentir. Est-ce que vous vous sentez sale ou rhabillé en Jésus-Christ? Moi, je crois qu'on est revêtu des vêtements du salut. Amen. Et que nous avons un libre accès auprès du Père. Et qu'il nous sanctifiera après avoir sanctifié nos vies en commençant par nos pensées. Il nous sanctifiera notre vie parfaitement dans tous les détails. Mais en l'attente que ce revêtement se fasse, nous sommes déjà déclarés justes par la foi en son nom. Amen. Voilà un beau passage sur la reconstruction du second temple, sur le retour des exilés qui n'étaient que des présages, et tout l'Ancien Testament n'est qu'un présage, un présage pour nous, et l'œuvre de ce que le Seigneur a fait en notre faveur. Amen. Alors, je crois ce soir que nous pouvons prier librement dans cette réunion de prière, comme dans nos maisons. Il se peut des fois que nous ayons du mal à nous approcher de Dieu, et c'est bien dommage. Josué était tenu en silence par qui ? Par l'adversaire, à cause de ses accusations. Mais les psaumes disent plutôt que maintenant nous pouvons chanter les louanges à cause de tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Amen. Alors que Dieu affermisse l'œuvre du Seigneur dans nos vies et que nous retenions surtout, s'il n'y avait que ça à retenir ce soir, c'est que celui qui accuse, c'est l'adversaire, celui qui défend, c'est Jésus-Christ. Amen.